Chers frères et sœurs et chers amis, nous commençons une nouvelle série. Et notre première étude de cette nouvelle série concerne le retour du Christ et qui implique l'évangélisation. Qu'on le sache ou l'ignore, qu'on le croit ou le nie, le retour de Christ est vraiment proche. Et cette affirmation n'est pas gratuite. Elle a pour elle le témoignage entier de la parole de Dieu. Elle se fonde sur les déclarations mêmes du Seigneur et sur les avertissements solennels des prophètes et des apôtres. « Oui, je viens bientôt », proclame Jésus-Christ du sein de la gloire. Et l'Esprit et l'Église répondent avec ferveur « Amen, viens Seigneur Jésus ». Aussi certainement qu'après la nuit vient le jour et qu'à l'hiver succède le printemps, sur les nuées du ciel, le Fils de l'homme, aux mains percées, apparaîtra en gloire. Dans les ténèbres du monde, véritable étoile du matin, avant-coureur d'un jour nouveau, le Christ fera soudain resplendir sa face glorieuse sur tous ceux qui croient, qui l'aiment et l'attendent. À un signal donné, à la voix de l'archange, au son éclatant de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis les croyants qui vivront sur la terre à cette heure-là seront transmués en un clin d'œil et enlevés tous ensemble sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. L'apparition glorieuse du Christ, précédée de l'enlèvement subi des élus dans le ciel, est une vérité clairement annoncée dans les saintes Écritures. Ces deux événements marquent les deux grandes phases du retour du Christ qui ne paraîtra pas aux yeux du monde sans avoir à ses côtés les siens, c'est-à-dire son Église, qu'il a tant aimée et pour laquelle il a donné sa vie. Élément trop oublié, pour ne pas dire méconnu par tout ce qui aujourd'hui se proclame Église sur la terre, l'enlèvement des rachetés est la grande vérité biblique qui fait palpiter de joie l'âme de tous les saints, car Dieu les appelle à régner avec le Christ dans le royaume de justice et de paix que Jésus-Christ seul instaurera dans le monde à son retour en gloire. C'est la souveraine consolation, l'espérance ineffable par laquelle le Sauveur encourageait déjà ses disciples qu'il laissait ici-bas attristés, carrément, on le sait, de son départ. Et c'est le message qu'apportaient les apôtres à l'Église primitive et qui entretenait puissamment en elle l'esprit d'attente, de vigilance et de prière si nécessaire à la vie chrétienne. Il ne s'agit donc pas d'une divagation ou d'une divagation, faut-il dire, qui serait uniquement théologique, de quelque visionnaire, ni d'un particularisme religieux de quelque sectaire. Pas du tout. Il est question d'une vérité qui doit être proclamée, d'autant plus que tôt nous montre son prochain accomplissement. Mais déjà nous voyons le sourire ironique des sceptiques et entendons les sarcasmes des moqueurs qui font aujourd'hui du néant leur Dieu et de la négation leur raison d'être. Se pourrait-il que leurs arguments de désespérés jettent le doute dans le cœur des croyants? Bien au contraire, leur attitude à leurs paroles nous confirme dans la certitude que nous sommes parvenus au dernier jour décrit par la parole de Dieu comme des temps difficiles où des moqueurs viendront, pleins de railleries, vivant au gré de leur propre convoitise en disant « Où est la promesse de sa venue ?» Car depuis que nos pères sont morts, tout demeure dans le même état que depuis le commencement de la création. Donc, ceux qui profèrent de telles paroles seront un jour surpris à leurs dépens. Il n'y a qu'à regarder comment la nature change. Ça devrait déjà donner à réfléchir. Mais, comme la Bible dit que ceux qui ne croient pas sont aveuglés, c'est pas étonnant que personne ne se rend compte. Nous voyons aussi s'esquisser les réactions de plusieurs qui se croient les représentants officiels du christianisme et de Jésus-Christ. Depuis longtemps déjà, au simple enseignement du Christ qu'ils affirment suivre, au clair témoignage des apôtres dont ils prétendent descendre ou continuer l'œuvre, ils ont substitué leur propre pensée, ainsi que le fruit d'une érudition qu'ils estiment supérieure à celle de Christ et de quelques Galiléens sans culture. Qu'importe ! Voyez-vous, si aujourd'hui il faut choisir entre les déclarations d'hommes qui suivent leurs propres esprits et ne voient rien, et l'autorité du Christ et de sa parole vivante, sans hésiter, nous nous rangeons du côté du Christ et de la Bible. Pourquoi serions-nous trouvés menteurs, faux bergers et pasteurs de néant, disent au peuple, et on peut dire avec eux, mais je ne le ferai pas, jamais, mais eux ils disent paix. Paix, quand il n'y a absolument aucune paix autour de nous. Et ils font espérer aux âmes que la parole dite sera accomplie alors que le Seigneur n'a point parlé. Tandis que chacun ici-bas croit à sa vérité et pense pouvoir l'apporter aux autres, le chrétien, digne de ce nom, ne trouve pas la vérité en lui-même. C'est pourquoi son message n'est pas le sien, mais celui du Christ qui seul est le chemin, la vérité et la vie. Ce que le croyant véritable prêche, c'est l'enseignement du Christ et de ses apôtres. Et les chrétiens fidèles écoutent cet enseignement et le vivent. Or Christ a dit, « Je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi. Et encore, je viens bientôt et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. » Devant ces paroles certaines et véritables, des véritables promesses bienheureuses pour les uns, mais aussi menaces terribles pour les autres, le chrétien se sent pressé d'avertir solennellement et sans se lasser toute âme. Sachez, chers amis, que le monde, et dans l'attente, car jamais attente si universelle, si intense, si anxieuse ne s'empara d'aucun siècle. Jamais la pensée de l'avenir ne fut si présente à tous les esprits, même aux plus vulgaires, même aux plus légers. Mais qu'attend donc le monde ? On espérait la paix et rien d'heureux n'arrive. Une ère de relèvement et voici l'épouvante. Alors pour échapper si possible à cette vague d'angoisse qui déferle sur les âmes, à cette crainte tenace qui s'insinue dans les cœurs, le monde, n'ayant plus de quoi se réjouir, cherche à s'étourdir. Fermer les yeux, se boucher les oreilles, s'enivrer même, sont certes des moyens de prendre conscience d'un danger. Mais ils ne veulent surtout pas prendre cette conscience-là, mais ils veulent l'étouffer, l'abrutir, en quelque sorte rendre comme si c'était un mensonge. Car voyez-vous, tandis qu'ils reposent sur leur lit et qu'ils disent dans leur cœur « Oh là là, l'Éternel ne peut faire ni bien ni mal. » Et la colère de Dieu est prête donc à fondre sur eux puisqu'ils ne croient pas. Il est plus proche qu'on le pense, ce jour terrible dont parlent les prophètes, jour de détresse et d'angoisse, de ravage et de destruction, même de ténèbres et d'obscurité. Pourtant, voyez-vous, sont-ils confus d'avoir commis des abominations ? Ils n'en ont aucune honte. Ils ne savent même plus ce que c'est que rougir. Et c'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent, évidemment. Oui, elle arrive. Elle se hâte beaucoup. Cette colère de Dieu et de l'agneau que toutes les Écritures annoncent depuis déjà longtemps, terrible et implacable, croyez-moi, elle tombera sur tous les impies qui recevront alors la juste rétribution de leurs paroles et même de leurs œuvres. Mais que nul ne s'y trompe, ah oui, car en ce jour-là, elle atteindra aussi tous les hypocrites, les timides et les menteurs qui firent de la religion un manteau recouvrant leur iniquité. En cette heure-là, tous ceux qui crurent durent leur vie en n'ayant que l'apparence de la piété, tandis qu'ils reniaient ce qui en fait la puissance. Ils sauront ce que signifie être vomi de la bouche du Seigneur, croyez-moi. On ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Voyez-vous, chers amis, il est temps de prendre Dieu au sérieux. Et c'est pourquoi, tous ensemble, mettons en pratique l'Écriture sainte qui nous dit « Rentrez en vous-même, examinez-vous, n'attendez pas l'échéance du terme fatal, du jour qui s'envolera rapide comme le chaume. N'attendez pas que fonde sur vous l'ardente colère du Seigneur, que vous surprenne le jour du courroux divin. Cherchez le Seigneur pendant qu'il est accessible. Invoquez-le tandis qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et l'ominique ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel, et il aura compassion de lui, et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Oui, le chrétien aussi est dans l'attente, forcément, n'est-ce pas? Et son âme attend le Seigneur plus que les sentinelles n'attendent le matin. Voyez-vous, si la devise actuelle du monde est « s'étourdir en attendant », celle du croyant demeure « servir en l'attendant ». C'est pas pareil, je répète. Si la devise actuelle du monde est de s'étourdir en attendant ces événements, eh bien celle du croyant, elle devrait être, pas seulement elle devrait, mais elle doit être, servir en l'attendant. Non, lui ne cherche pas à s'étourdir, car en Christ, le chrétien peut se réjouir toujours. Ses yeux voient, ses oreilles entendent, et parce qu'il connaît avec certitude l'avenir du monde et celui du chrétien en face des foules perdues, le cœur étreint par l'amour du Christ, il crie aux hommes, ses frères et sœurs, en disant « Soyez réconciliés avec Dieu ». Il sait bien que beaucoup resteront sourds à ses appels, mais il n'ignore pas non plus que quiconque écoutera et croira sera sauvé de la mort éternelle. S'il prêche le retour du Christ, c'est qu'il croit au résultat glorieux de sa première venue sur la terre. Il sait que le Christ vint ici-bas pour chercher et pour sauver ce qui était perdu. Il sait qu'il mourut sur la croix du calvaire pour expier les fautes et les péchés de l'humanité coupable. Il sait qu'il ressuscita le troisième jour pour être la justification de tous ceux qui croient. Il sait avec tous les saints que, remonté dans le ciel d'où il était descendu, il leur prépare une place et intercède même pour eux. Il sait qu'à l'heure de Dieu, il apparaîtra une seconde fois pour le salut de tous ceux qui l'attendent. Enfin, il atteste avec les apôtres que c'est lui que Dieu a établi juge des vivants et des morts. Contrairement à l'homme du monde qui réclame de la vie le plus possible, le plus de plaisir possible, il y aura pour lui le pécheur, hélas, la fosse qui l'engloutira, qui engloutira ses restes misérables. Et pour le chrétien, cela lui donne l'occasion de connaître Christ, de jouir de lui qui est la source des eaux vives, et de le servir avec joie. Tout ceci avant d'entrer dans une plénitude plus grande encore au jour où le ciel s'ouvrira pour lui et où il revêtira un corps glorieux. Alléluia. Mais pourquoi donc, dans un monde devenu si indifférent aux choses de Dieu, la proclamation du retour du Christ suscite-t-elle tant d'incrédulité, de doute, de raillerie et de haine? Certains n'y croient pas parce qu'ils ne voient en Christ qu'un grand homme, un génie mort, il y a plus de 2000 ans, victime d'une idéologie qui lui survit encore, mais que bien peu peuvent encore ou veulent encore pratiquer. Niant la résurrection, ils considèrent celle du Christ comme une pure légende inventée par les apôtres. Et pour eux, Jésus-Christ n'étant plus qu'un peu de poussière mêlée à la terre, ils ne sauraient être impressionnés par notre affirmation. Pourtant, s'ils se trompaient, tous ces gens-là, ça donne à réfléchir. Supposons qu'ils se trompent. Si toute leur sagesse n'était en réalité qu'une folie, si tout leur raisonnement, leur lucide logique, n'était que le fruit d'une nature orgueilleuse et corrompue, s'ils n'étaient au fond que des jouets aveugles de leur propre convoitise, supposons qu'ils se trompent. D'autres, et parmi eux un grand nombre de chrétiens mondains, n'ont pas d'opinion du tout. Ils doutent de l'accomplissement de cette vérité ou ils repoussent et détestent toute cette doctrine. À quoi peut-on vraiment attribuer cet état de choses? Il faut d'abord reconnaître dans quelle ignorance des vérités bibliques vivent la majorité des gens. Le christianisme de plusieurs baptisés n'est en réalité qu'une mince couche de vernis recouvrant une âme et des habitudes restées païennes. Si plusieurs pays manquent totalement de Bible, on ne peut pas en dire autant de nos contrées. Mais la Bible n'est tout simplement pas lue, et en dehors du clergé, et malgré le renouveau biblique, la majorité des catholiques n'en connaissent que des fragments. Et les protestants, qui possèdent pourtant le saint volume presque dans tous leurs demeures, ne l'ouvre que très peu, ou aujourd'hui même pas du tout. Ce saint livre est devenu rempli de poussière. Ils pensent en avoir lu assez au catéchisme et pendant leur instruction religieuse. Aujourd'hui, ce qu'ils en entendent à l'église, s'ils y vont encore, cela leur suffit amplement. Et comment donc seraient-ils attirés par la Bible quand quelques-uns de leurs propres conducteurs spirituels ne se gênent pas du tout même, pour dire et écrire que si le ton général de ce livre est sans doute celui d'une certaine foi et d'une certaine piété, il n'en est pas moins rempli de défaillances, d'aberrations, ils disent carrément d'aberrations, je l'ai entendu, et même tellement de contradictions qu'on ne peut plus s'y retrouver. Et pourtant, voyez-vous, l'intérêt pour la Bible se réveillait à nouveau. Le lecteur attentif découvrirait, entre beaucoup d'autres vérités merveilleuses, que la seconde venue du Christ est mentionnée 318 fois dans les 260 chapitres du Nouveau Testament, ce qui représente le 25e des versets de Saint Matthieu jusqu'à l'Apocalypse. Et puis, ouvrant l'Ancien Testament, il serait à même de distinguer que la très grande majorité des prédications concernant le Christ se rapportent à sa seconde venue. Cependant, voyez-vous, l'ignorance des Saintes Écritures n'est pas seule en cause de l'hostilité la plus grande contre la doctrine du retour du Christ se rencontre surtout, et oui, parmi ceux qui, tout en proclamant Christ le Sauveur du monde, pensent, sur plus d'un point du reste, que le Christ s'est totalement trompé. Certes, ils reconnaissent bien en Jésus de Nazareth le maître de la morale, mais il lui refuse toute autorité dans les domaines historiques et scientifiques, ne gardant du Christ que ce qui plaît à leur raison, leur conscience et leur cœur, ils ne craignent pas de le mutiler sans aucun scrupule en disant « Nous laissons dans les annales du passé le Messie qui doit revenir avant longtemps sur les nuées, car le Juif qui croit aux processions démoniaques, plutôt des possessions démoniaques, faut-il dire, et aussi au diable, il importe de la lointaine Perse. Ils ont reçu tout cela de très loin, et ceci pour nous mettre en communication avec le roi des humbles, le fils aimé du Père et le frère des hommes, dont la doctrine fondamentale fut le sel de la terre. Il y a donc déjà plus de 20 siècles, et qui doit le devenir encore où le monde sera perdu. Eh bien, oui, ils verront bien qu'il va revenir, mais quand ils verront cela, sera trop tard pour nombreux d'entre eux. Nous établissons même une différence entre l'Évangile et les erreurs qui en ont parfois obscurci le principe dans l'esprit de son fondateur. Nous prétendons être chrétiens sans souscrire à tous les idées juives ou helléniques de Jésus-Christ. Si de tels hommes ne manifestaient pas si clairement leur position vis-à-vis du Christ, nous leur poserions cette question, oui ou non, confessez-vous Jésus-Christ venu en chair? Je vous le demande. Reconnaissez-vous en lui le Fils unique et éternel de Dieu, la parole faite chair? Et puis nous ajouterons, si oui, alors soyez conséquents et admettez que sa sainte parole est infaillible et croyez-la tout simplement. Vivez-la et prêchez-la avec fidélité. Sinon, alors, jetez donc votre masque, loup ravisseur revêtu de peau de brebis, faux docteur et faux prophète, animé de l'esprit de l'Antéchrist, qui séduisait toujours et encore les cœurs pour les perdre avec vous. La tolérance est aujourd'hui si grande dans certaines églises, qu'il suffit d'être gradué en théologie pour pouvoir librement, carrément, saper les bases du christianisme au sein même de l'Église, ou plus exactement, de ce qui porte encore ce titre. Et un tel système ne trahit-il pas davantage le Christ qu'il ne le représente? Je vous le demande tout simplement. Vous errez et vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Vos lumières vous aveuglent, votre raison vous égare. Pourquoi vous glorifiez de votre sincérité et donnez si généreusement un brevet d'ignorance à tous ceux qui croient humblement pouvoir encore s'appuyer sur leur Bible et compter sur le secours du Saint-Esprit pour la comprendre? Souvenez-vous en quelques termes le plus grand des apôtres, le plus grand qualifié ceux, il a qualifié ceux qui prêchent un autre Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit? Que celui qu'ils ont prêché ou un évangile différent de celui qu'ils annoncèrent, souvenez-vous ce qu'il a dit? Eh bien, je vous le dis. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Ils sont des ouvriers trompeurs. Ils sont déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas du tout étrange que ces ministres, pasteurs, prêtres, etc., se déguisent en ministres de justice. Mais voyez-vous, les Saintes Écritures disent « Or leur fin sera selon leurs œuvres, parce qu'ils n'ont pas ouvert leur cœur à l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu leur envoie une puissance d'égarement qui les fait croire au mensonge d'un néo-christianisme universel conduisant à l'apostasie. Or, les détracteurs de la doctrine du retour du Christ ne se recrutent pas seulement dans les rangs du libéralisme. L'orthodoxie en possède un grand nombre. Pourquoi donc n'attendons-nous pas le Christ, nous qui réclamons de la Bible, qui connaissons les Saintes Écritures et qui professons croire à l'avènement du Seigneur? Oui, pourquoi vivons-nous ici-bas comme si la venue du Seigneur était fort lointaine? Si nous ne savons ni le jour ni l'heure, si nul ne peut fixer de date, est-ce une raison pour penser, parler et agir comme si Jésus-Christ ne revenait pas aujourd'hui? Bien au contraire, l'ignorance totale dans laquelle nous nous trouvons quant au moment précis de son retour doit nous inciter à veiller quotidiennement. Gardons-nous donc de dire avec le disciple infidèle « Mon maître tarde à venir. » Jésus-Christ, qui ne pouvait ni se tromper ni nous tromper, a dit « Mais je reviendrai. » Pourquoi serions-nous surpris, reniant les ordres de celui que nous appelons pourtant maître et seigneur? Soyons vigilants afin qu'à sa venue, il nous trouve encore fidèles. Si les foules, à l'heure actuelle, ignorent presque tout du retour de Christ ou ne croient pas à cette vérité, c'est qu'elles ne voient pas les effets merveilleux qu'une telle perspective devrait produire dans la vie des chrétiens et des communautés évangéliques. Comment prendre au sérieux les affirmations des gens qui prétendent que le retour du Christ est imminent, alors qu'ils continuent à vivre sur la terre en frères et sœurs divisés, tout en proclamant qu'ils vont partager le même séjour de gloire? Donc, si leur conviction était réelle et sincère, ne serait-il pas temps qu'ils prennent les paroles de leur maître au sérieux et les mettent en pratique? Il faut le reconnaître, si les enfants de Dieu brûlaient d'amour pour leur Sauveur, si leur croyance à son retour se transformait en une attente pratique, alors un véritable réveil se produirait. À l'instar de ce qui se passait au sein des églises primitives, loin de paralyser l'activité évangélique, cette réelle attente ne ferait que l'animer et l'encourager de la manière la plus efficace. Un nouvel amour pour les âmes, pour les hommes perdus, remplirait les cœurs et redonnant à l'évangélisation la place sans laquelle toute Église va mourir. Il n'y aura plus que deux ou trois âgés aux cheveux tout blancs qui se retrouveront encore dans un lieu de culte. Plusieurs étiquettes religieuses disparaîtraient. Et enfin, des frères et sœurs qui sont désunis se réconcilieraient pour montrer au monde l'amour du Christ. Ils marcheraient ensemble dans le sentier de la sanctification, plus occupés des intérêts de leur Seigneur que de leurs propres avantages et prêts à rendre compte à leur maître de l'administration des dons, des talents et des biens qu'il leur avait confiés et en vue du témoignage à lui rendre dans ce monde. Mais pourquoi ce réveil ne se produirait-il pas aujourd'hui? Le Christ n'a-t-il plus l'attrait pour nos cœurs? La vraie, la véritable foi en son saint nom est-elle devenue si rare sur la terre? Dans le tourbillon de la vie présente, notre esprit est-il à tel point occupé des choses de la terre que nous en oublions pratiquement le retour du Seigneur? Au contact de ce monde et de ses plaisirs, notre amour pour le Christ est-il refroidi au point que sa venue nous paraisse indésirable, troublant nos projets d'avenir, les plans mêmes du cœur trop attachés aux choses d'en bas? Oui, aurions-nous fait du si grand salut de Dieu un oreiller de paresse pour dormir pendant la moisson comme un fils qui fait honte? Voyez-vous, notre conformité aux habitudes de ce monde est-elle si accentuée que nous ne puissions déjà plus penser au retour du Christ sans un certain malaise et sans crainte? S'il en est ainsi, alors n'avons-nous pas mille raisons de plus, des raisons encore plus pour vouloir avec Dieu que quelque chose puisse changer sans tarder dans nos vies, dans ma vie? Aux dernières heures du temps de la patience et de la grâce de Dieu, comme un coup de clairon, alors l'avertissement du Christ résonne aux oreilles de tous, et ce clairon, il dit « Soyez prêts ». Et cette proclamation nous pose une question personnelle et précise. Suis-je prêt, vraiment prêt, pour son retour? Supposons qu'il venait aujourd'hui. Suis-je prêt? Ça, c'est un problème. car son retour veut dire aussi règlement des comptes. Ça, c'est beaucoup moins rigolo. Ça devient très sérieux. Je répète, car ce retour veut aussi dire des règlements des comptes. Lisons simplement les paraboles du Christ sur sa venue et nous aurons ou nous saurons vraiment que ce qui nous attend. Voyez-vous, si nous vivons en harmonie avec les enseignements de la parole de Dieu, si nous marchons dans la lumière comme Dieu est dans la lumière, le retour du Seigneur sera pour nous une bienheureuse espérance, une source intarissable de consolation et un puissant motif de sanctification et un aiguillon salutaire pour servir Christ en l'attendant. Je dis bien, pour servir Christ, encore qu'il en est temps. Chers amis, si le moment précis du retour du Christ ne nous est pas révélé, Dieu ne nous a pourtant pas laissé sans précision concernant l'époque de la seconde venue de son Fils. Par la Sainte Bible, le croyant en connaît les signes plus particulièrement évocateurs qui se manifestent de plus en plus sur le plan politique, social, moral et religieux. Celui qui lit les Saintes Écritures est frappé de l'exactitude effrayante de ses prédictions, sachant par la parole sainte que le Christ doit revenir sur la terre avec les siens, toute âme pieuse, sincère, arrive à la conclusion que l'enlèvement des croyants ne saurait trop tarder. Cette conviction se trouve encore renforcée par le fait que si plusieurs signes annoncent le retour glorieux du Seigneur, aucun événement spécial n'est prédit dans la Bible comme devant s'accomplir avant que Jésus-Christ revienne chercher les siens. Et cela est si vrai que les apôtres eux-mêmes étaient autorisés à penser que cet enlèvement pouvait se produire même de leur vivant. D'autre part, en tant que membre du corps de Christ et participant à la nature divine, l'enfant de Dieu est un homme, une femme, qui vit sur la terre dominée et dirigée par la tête de ce corps qui est Christ lui-même, qui est dans le ciel. Il cherche donc à marcher ici-bas d'une manière digne de son chef, conforme également à la volonté de Dieu, et ses désirs et ses aspirations étant célestes et correspondant carrément, absolument, à sa nouvelle nature. Vivant ainsi dans ce monde, il s'aperçoit chaque jour davantage que l'heure vient où il n'y aura plus de place pour lui ici-bas. Et en face d'une marée montante d'impiété, d'iniquité et d'apostasie, il réalise que si aujourd'hui il est encore toléré, eh bien demain, il ne le sera plus, à moins qu'il ne s'aligne et ne fasse comme les autres en suivant le courant du siècle. Le fait même qu'il cherche à remonter ce courant, sa manière de vivre séparée de la souillure du monde qui s'insinue partout, ces paroles d'avertissement le mettent carrément en opposition avec le monde et ses principes. Il devient ainsi même silencieux. Même qu'il est silencieux, il devient un reproche vivant pour plusieurs et la condamnation de leur vie. Encore un peu de temps et les derniers scrupules, les derniers préjugés ayant disparu, en des jours où l'on assiste très rapidement à la transvaluation des valeurs, eh bien le compte des vrais chrétiens sera réglé, croyez-moi, d'une nouvelle morale universelle. Croyez-moi, l'avenir terrestre du chrétien est plutôt sombre. Mais il le sait. Même il ou elle le sent. De plus en plus, il éprouve, elle éprouve à quel point il est étranger sur la terre, incompris même par ses intimes et même par ses frères et sœurs. Le mal est si subtil et devient si général qu'on ne sait plus faire la différence entre ce qui est saint et ce qui est profane, entre ce qui est bien et ce qui est mal, en attendant que demain, on appelle ouvertement le mal bien et le bien mal. On regarde aux hommes et non plus à Christ. Et comme les hommes s'autorisent à faire bien des choses, on pense pouvoir faire comme eux. Faire comme les autres semble devenir de plus en plus l'idéal de plusieurs. Et si parfois la conscience de quelques-uns se réveille, on la calme par ce slogan de plus en plus accrédité « On ne peut pas faire autrement car il faut vivre avec son siècle ». Or, voyez-vous, le chrétien qui vit en communion intime avec le Christ, il sait très bien qu'on peut faire autrement. Il affirme même qu'on doit faire autrement, que pour lui, il lui est de plus en plus impossible ne pas faire autrement. S'habituer au péché, au reniement perpétuel, à une vie de compromission, c'est tout cela qui devient impossible à celui qu'anime encore la vie de Dieu. Pas plus que son maître ne l'a fait, il ne s'évade du monde. Il vit aujourd'hui proche de toutes les âmes, se penchant sur toutes les misères, préoccupé de tous les problèmes, mais séparé totalement de toute corruption et de toute violence. Il vit dans le monde, mais enseigné par la grâce et non pas par les principes du siècle. Alors, il vit sobrement, justement, pieusement, en attendant la bienheureuse espérance. Et parce que cette espérance, elle est réelle, vivante en lui, et parce qu'elle est concrète et précise, il ne craint pas la colère des hommes, qui, eux, ne se soucient pas du tout de la colère de Dieu. Être jugé digne d'échapper à la colère à venir, voilà ce qui importe aux chrétiens. Alors, comme un Hénoch, il marche avec Dieu au sein d'une génération corrompue et perverse, en présence de l'impiété grandissante, il avertit les hommes sans se lasser. Il souffre de la présence du péché et il soupire après la délivrance. Oui, son cœur est lié à Christ. Il languit après lui. Il désire sa venue parce qu'il aime son Seigneur. Il soupire après lui parce que son cœur bat pour lui. Il appelle son retour, non point par lâcheté, pour s'évader et pour fuir l'adversité, mais pas du tout, mais parce que il aspire après le jour où Christ sera pleinement glorifié, glorifié en lui et dans ce monde. Nous pouvons dire ensemble, avant de terminer cette étude pour aujourd'hui, Maranatha, le Seigneur vient. Tel était le mot d'ordre par lequel les chrétiens des temps apostoliques s'excitaient à la vigilance. Oui, il revient pour enlever les siens et les introduire dans les aimables demeures de la maison du Père. Le monde doit s'attendre à la disparition totale et soudaine des véritables chrétiens. On les cherchera partout, mais ils ne seront plus trouvés. Et avant même qu'ils aient été exterminés au nom d'une religion apostate, ils auront disparu, oui, enlevés par le Seigneur Jésus-Christ auprès de Dieu le Père et de son trône. Ce qui fait obstacle pour le moment à la corruption totale étant loin, l'homme de péché qui est l'Antéchrist pourra paraître bientôt. Et cet inique viendra par la puissance de Satan et opérera toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges menteurs et recourant à toutes les séductions de l'injustice pour la perte de tous ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas ouvert leur cœur à l'amour de la vérité pour être sauvé. Et c'est en ce temps-là, croyez-moi, que les terribles jugements apocalyptiques fondront sur le monde impie jusqu'au jour où le Seigneur Jésus-Christ, sortant de la salle des noces, descendra du ciel, entouré de tous ses rachetés et détruira par le souffle de sa bouche l'Antéchrist et ses adorateurs, mettant ainsi un terme aux iniquités des hommes. Alors, tout œil verra Christ, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Roi de gloire, Seigneur des seigneurs, il établira en puissance son règne de justice et de paix sur une terre purifiée par ses terribles jugements. Tout cela est révélé dans la Sainte Bible. Lisez-la avec quelques attentions et si votre esprit n'est pas prévenu par des idées préconçues, vous verrez clairement que le retour du Seigneur ne s'est pas déjà produit comme certains le prêchent, comme le prétendant et le prétendent surtout quelques-uns, que le jour de la Pentecôte ou à d'autres époques déterminées dans l'histoire du monde, ou qu'il a lieu chaque fois qu'une personne se convertit, qu'une personne meurt ou prend même l'Eucharistie, je répète, que tout cela est révélé dans les Saintes Écritures. Nous devons la lire avec quelques attentions. Et si notre esprit n'est pas prévenu par des idées préconçues, alors nous verrons clairement. Nous verrons quoi ? Que le retour du Seigneur ne s'est pas déjà produit, comme le prétendent quelques-uns. Non, le jour de la Pentecôte, ou à d'autres époques déterminées dans l'histoire du monde, ou qu'il a lieu, par exemple, chaque fois qu'une personne se convertit, ou qu'une personne meurt, ou même prend l'Eucharistie. Croyez-moi, l'Évangile enseigne clairement un retour glorieux, un retour visible de la personne du Christ, et elle fournit des arguments positifs contre l'idée d'une venue en esprit, qu'il s'agisse de la Pentecôte, de la conversion ou de la mort. Que Dieu, chers amis, nous garde de rien, mais vraiment de rien ajouter, ni de rien retrancher à la bonne nouvelle du salut. Nous allons maintenant terminer tout simplement par la prière. Prions ensemble. Dieu de bonté, nous implorons encore ta protection divine, ne trouvant en nous-mêmes rien qui puisse nous rassurer contre la justice et la rigueur de tes jugements, nous recourons à ta grâce et à ton insondable miséricorde manifestée en Jésus-Christ. Sans cet appui, sans cette espérance, comment pourrions-nous regarder à toi après avoir désobéi de tant de manières à ta parole et à tes lois? Mais ta délivrance est près de tous ceux qui te craignent. Qui te craignent non d'une crainte d'esclave, de peur, mais d'une crainte filiale. À ceux-là, Seigneur, tu daignes parler de paix, tu soutiens leur faiblesse et tu prends connaissance des détresses de leur âme. Puissions-nous donc sentir cette crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse afin de marcher d'un pas plus ferme dans la voie dont le terme est l'éternité. Oh, que cette idée est solennelle, l'éternité, la fin de toutes nos agitations terrestres, de toutes nos joies éphémères et rapides, de toutes nos souffrances. L'éternité, mystère incompréhensible, avenir sans limite et sans fin. Oui, le bonheur ou la misère. Seigneur, avant que cet instant redoutable arrive pour nous, daigne nous attirer à toi et nous convertir par ta toute-puissance. Qu'appuyés sur tes promesses, nous attendions en paix, avec foi, avec confiance en Christ notre Rédempteur, les nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice habite. Que nous nous tenions prêts pour le jour du Seigneur, faisons tous nos efforts afin qu'il nous trouve sans tâche et sans reproche, affermi dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ô notre Dieu, garde-nous toi-même, éclaire-nous par ton Saint-Esprit, dirige chacun de nous selon tous ses besoins et selon sa position. Protège-nous à chaque instant de notre existence et reçois les humbles supplications que nous t'offrons maintenant pour tous ceux qui nous sont chers, ainsi que pour les malades et les affligés. Seigneur, qu'à toi soit louange et gloire pour l'éternité. Amen. Et, chers amis, le Seigneur aime tous ceux qui ont compris qu'ils ont besoin de son salut. Autrement, sans le salut du Seigneur, nous sommes carrément perdus. Donc, accepter sa main tendue, se souvenir qu'il est mort à la croix, qu'il a versé son sang précieux pour toi comme pour moi, et de savoir que perdus que nous l'étions, en acceptant sa main tendue, nous serons sauvés. Et nous serons sauvés tout de suite, même à cet instant. Soyez donc bénis et merci pour l'intérêt que vous portez à ces études, pas toujours faciles, il est vrai. Et évidemment, cette série qui vient de commencer prendra peut-être quelque chose comme 20 à 30 CD. Mais vous ne serez pas déçus. Au revoir, très chers amis, et à bientôt à nouveau. Au revoir.